C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Possible de savoir qui en était l'auteur, mineur ou paysan, amoureux fatigué. 20 ans pour un poilu, c'est pas l'âge du bonheur. Dans la boue, les obus et les cris dégradés. Parmi ceux qui tuaient et crevaient en silence, il a levé la voix pour un vrai chant d'honneur, pour laisser de leur vie plus qu'un mort pour la France, la mémoire et l'orgueil de refuser l'horreur. Il y en a des chansons, des plus belles, des plus tendres, mais cette chanson-là, elle n'était pas à vendre. Il y en a des chansons, il y en a, mais cette chanson-là, bon, les gars, on en a tous marre de cette saloperie de plateau. Alors, il n'y a pas le choix, il faut qu'on le prenne. Nous, la deuxième, on a pour mission de bousculer la mitrailleuse qui est en haut sur la colline. Je vous fais pas de dessin. Vous savez tous les dégâts qu'elle nous a causés. Alors, il n'y a pas le choix. Ce soir, on sera maître de la colline. Sinon, les copains seront vraiment morts pour rien. Encore 2 minutes avant que les artilleurs s'arrêtent. Et après, c'est à nous.
Salut, c'est Charles Cécile. Nous rencontrons aujourd'hui François Godard dans sa belle ville de Poitiers. François Godard fait un travail conséquent sur la musique, sur les mots. Sa forme d'écriture est, vous le verrez, très précise. C'est un conteur-chercheur, un travailleur des mots et de l'utopie. Une enquête sur l'individu commençait à être franchement nécessaire et c'est la conteuse Angèle Goduchot qui est chargée de le faire parler.
Alors, François Godard, artiste professionnel dès 19 ans.
Eh oui, c'est vrai.
C'est exact. François Godard est très vite attiré par les mythes et les épopées. Tu as commencé par raconter ça.
Oui.
Les mythes. Les épopées.
Ouais, j'ai commencé par raconter effectivement de l'épopée celtique, essentiellement. Les épopées irlandaises.
Les épopées irlandaises,
ouais.
Pas le roi Arthur.
Pas le roi Arthur, non. Après, j'ai travaillé sur Merlin un petit peu plus tard.
Uh-huh.
On racontait une histoire assez connue qui s'appelle l'histoire de Derdre.
Ah parce oui, que, voilà, t'as raconté ça ?
J'ai raconté ça parce que voilà, c'était comme la pièce était montée à Poitiers, en fait, le metteur en scène m'avait dit j'aimerais bien au moment de la création de la pièce que tu viennes
raconter ça.
Donc ça a été le début en fait du projet qu'on a mené ensuite avec un camarade harpiste pendant des années. On a joué tous les deux, on avait 3 histoires, on y fait celle-ci, l'histoire de Derdre. Il y avait la courtise d'Étain, qui est une histoire très très peu connue, qui est une histoire absolument magnifique d'amour, voilà, histoire d'amour, c'était un gros morceau, ça faisait 45 minutes, voilà, une histoire avec des métamorphoses et des choses incroyables.
Par exemple, pour raconter ça, comment t'as travaillé, t'es parti de quel texte ?
Alors, je suis allé fouiller un peu dans les traductions en français ou en anglais des textes originaux, enfin des textes originaux. Les textes originaux pour ces matières-là, c'est en fait les textes écrits par les moines au Moyen-Âge. C'était déjà une transformation, une christianisation, déjà tout ce qu'on veut. Mais c'est quand même les textes les plus anciens là-dessus. Et puis il y a eu pas mal de, pour certains en tout cas, pour Derne en l'occurrence, ou pour l'histoire de Bran qui était la fin du spectacle, il y a eu pas mal de réécritures ensuite qui ont été faites un peu avec le temps. Donc voilà, plonger là-dedans, plonger dans les études un petit peu de langue gaélique pour essayer de comprendre, de fabriquer une langue en français qui est un peu à voir poétiquement. Ouais. Avec ce
comment
qu'on peut imaginer.
Les noms et tout ça.
Voilà, moi j'avais pris le parti de les prononcer à la française parce que c'est pas possible autrement, parce que je parle pas la langue de toute façon. Ouais. Mais en tout cas, de chercher dans l'écriture elle-même une forme poétique qui puisse se rapprocher des formes poétiques existantes en gaélique. Voilà.
Ça veut dire déjà un travail maîtrisé des vers?
Alors c'était pas en vers, mais c'était pratiquement comme si c'était en vers, parce que comme j'étais en duo avec un musicien et que lui il écrivait tout, il n'y avait pas d'impro pratiquement dans ce qu'il faisait. C'était extrêmement contraint par la musique.
Là, on entend la musique d'un petit enfant qui s'appelle...
Il s'appelle Robinson, qui a 2 mois et demi.
Qui a 2 mois et demi. Et qui fait savoir qu'il est là.
C'est ça, voilà. Il n'y a pas de raison. Et donc, en fait, voilà, lui, on écrivait des choses, on écrivait ensemble. Et du coup, il y avait effectivement des séquences, et je fais toujours ça aujourd'hui, mais avec d'autres musiciens, des séquences où le texte et la musique se suivent de tellement près que c'est pas en vers mais quasiment, c'est-à-dire que de toute façon moi j'ai pas une seconde
moments,
pour réfléchir.
À des moments il peut te dire là il faut que tu rabotes ton texte parce que t'as une syllabe de trop et puis là je voudrais que ça tourne comme ça donc il faut que...
Souvent c'était ça, c'est-à-dire que moi j'impulsais les formes globales mais lui du coup ça lui donnait une idée de rythme et l'idée de rythme me calait mon texte.
D'accord.
Et c'était un boulot passionnant. Après c'était pas un boulot... Ça n'a jamais abouti autant que ce qu'on aurait voulu parce que ça jouait pas assez pour que ça progresse suffisamment, je crois.
Ah oui, c'est ça.
Mais c'était passionnant à faire. Nous, on s'éclatait à raconter ces trucs-là. Voilà. Des trucs très très loin de nous, quoi, finalement. Et avec une forme extrêmement travaillée, quoi.
Ouais. Les mille et une nuits aussi.
Ouais, les mille et une nuits.
Sur les mille... T'as raconté les mille et une nuits.
J'ai raconté, en fait, j'ai pas raconté les mille et une nuits, j'ai raconté un petit peu quelques petites histoires et j'ai raconté surtout, j'ai monté un spectacle en duo avec un saxo. À l'époque, qui s'appelait Les Nuits d'Émeraude, qui était une lecture de l'histoire de la belle Zumrud, qui est pas tout à fait n'importe quoi quand même. Et on avait écrit ça donc, avec un saxo. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un répertoire.
T'as raconté Gilgamesh.
J'ai raconté Gilgamesh, oui.
Ça aussi, c'est pas rien.
Ah, mais c'est pas rien. Ça, c'était un rêve, ça. Depuis que
c'était
j'avais commencé.
C'était une commande.
En fait, la commande, c'était d'un festival de.
T'as trouvé quelqu'un pour faire passer la commande, c'est ça.
C'est ça. Non, c'est un symposium de sculpture qui travaillait en Charente-Maritime sur la sculpture romane et qui voulait un spectacle qui ait un rapport avec la sculpture romane, avec l'imaginaire roman. Et du coup, moi, ils sont.
Gilgamesh.
Eh ben, le rapport avec Gilgamesh, c'est le déluge.
Ah, d'accord.
Je vois. D'accord. Moi, effectivement, j'ai un petit peu élargi la commande, évidemment, mais c'est, enfin, de toute façon, on fait toujours ça, sinon c'est pas tellement intéressant. Et on leur a proposé ce truc-là. Donc là, c'était un.
Et pareil, donc du coup, t'es parti de ces textes lesquels? Parce que c'est plein de trous.
Ouais, c'est plein de trous. Bah oui, mais bon, en prenant, effectivement, alors j'ai plus les noms, ça fait quand même une dizaine d'années ce truc-là, donc j'ai plus les noms en tête des traducteurs et tout ça, mais il y a quand même un certain nombre de traductions qui existent, et puis d'analyses. Et dans les travaux d'analyse, on a toujours des extraits, des machins, des trucs, et du coup, on arrive à reconstituer à peu près l'histoire. Et puis voilà, on était dans c'est là où je suis allé le plus loin dans cette recherche que j'ai menée pendant pas mal d'années, finalement, sur le mélange des disciplines, quoi.
C'est et ça, ça t'intéresse.
Ah, ça m'intéressait beaucoup, ouais.
Et ça comment... t'intéressait, tu dis ?
Ouais, je pense que ça m'intéresse un petit peu moins maintenant, mais parce que
tu travailles quand même sur le mélange, au moins, de la parole et de la musique.
Ouais, je suis musicien un petit peu en touriste, hein, mais j'ai quand même tourné un peu comme musicien en musique traditionnelle et en chanson. J'écris des chansons aussi, donc... Voilà, donc j'ai un peu de pratique musicale et c'est précieux parce que, en fait, le premier musicien avec lequel j'ai vraiment bossé, donc le harpiste avec qui on a monté les épopées celtiques, là, c'est... Quand on parle de forme musicale, de structure musicale, on parle la même langue, c'est-à-dire que je peux comprendre ce qu'il me dit. Donc du coup, tout de suite, on a pu rentrer dans l'idée que le musicien n'était pas là pour être derrière, dans le fond, loin, et puis le compteur devant.
Je vais te poser la question, justement.
Ben non. Évidemment, et non, que c'était vraiment un vrai dialogue à deux, où il y a deux langages différents pour raconter la même histoire. Quoi. Et ça, c'est toujours ce que je recherche aujourd'hui avec les musiciens. musiciens avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que c'est,
y a la pas, musique, elle sert à quoi?
La musique, elle sert à raconter tout ce que la parole ne raconte, enfin, tout un tas de choses que la parole ne raconte pas. C'est-à-dire que elle sert à élargir souvent le chant, à élargir le propos, à élargir la palette de couleurs. Voilà, il y a des choses, même aujourd'hui dans Résistance, il y a des choses qui... que moi je vais faire avancer le comment dire le fonctionnel de l'histoire, les épisodes, mais le sensible de l'histoire, la chair, c'est pas forcément moi qui vais la faire avancer. C'est aussi parce que à un moment il y a cette musique là qui va être là, qui va du coup dire des choses que moi je vais pas avoir besoin de dire, et qui va le dire mieux sûrement que ce que je saurais dire, parce que c'est une autre façon d'écouter, parce que ça nous dit autre chose, la musique. Et voilà, donc ça sert à élargir le champ de ce qu'on peut raconter dans une histoire. Quoi. Voilà.
Un joli teint frais, de rose en bouton, des cheveux du plus beau blond, ouvrière, humble et jolie, IE, elle suivait tout droit sa vie, IE, lorsqu'un jeune homme vint, comme dans un roman, qu'il avait vu en passant, et qui s'efforçant de la rencontrer, s'était mis à l'adorer. Et timide un soir que la nuit tombait, avec un sourire, il lui murmurait: bonsoir, m'amour, bonsoir, ma fleur. Bonsoir toute mon âme, ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, et de tes beautés, de ton amour, si ma route est fleurie, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer toujours. Ah, tu parles, tiens, ouais, pour mon pote Amélie, lui, c'est déjà le dernier refrain. Eh, hey, mais attends, mais ça, c'est une idée, dit Marc. On pourrait faire une chanson pour Amélie, tu vois, on changerait les paroles, on dirait... adieu, ma vie, adieu, ma amour, adieu, ma jolie femme... Ah non, pas adieu, ma jolie femme, adieu, toutes les femmes. Parce que bon, lui retrouvera pas la sienne, on est d'accord. Mais nous non plus, tu penses bien qu'on n'est pas prêt de rentrer à la maison. Eh, hey, surtout que je sais pas vous, mais moi, ça fait bien 6 mois que j'ai pas eu de permission. Moi, je suis pas rentré chez moi depuis avant Noël, même, alors t'as qu'à voir. D'accord, toutes les femmes. Ça pourrait donner peut-être alors quelque chose un peu comme ça. Adieu l'amour, adieu la vie, adieu toutes les femmes. Et c'est fini de cette guerre infâme. Oh, ça c'est bien ça. Sur le plateau, il a laissé sa peau. Ah non, tu peux pas dire il a laissé sa peau. On a dit qu'on parlait des femmes de tout le monde. Alors c'est tout le monde qui laisse sa peau. D'accord, alors il faut laisser sa peau. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Ça, ça marche. Elle lui sert à quoi boire à tout le monde là? Parce que moi, réfléchir avec le gosier sec, par contre, ça va pas marcher longtemps. Hein. Et puis d'abord, pourquoi il faudrait qu'on la laisse notre peau? Hein? T'as une bonne raison, toi, peut-être? Ben, parce que les copains sont morts, non? Il paraît, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, bah ça peut durer longtemps, ces conneries. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Cette offensive, elle est comme les autres, elle ira pas plus loin. On monte sur le plateau, on fait 100 mètres et puis on redescend, puis c'est tout. Simplement, entre les deux, on laisse les copains crever, et puis voilà. Ouais, moi je vais vous dire, on est les condamnés, voilà ce qu'on est. Moi j'ai fait de mal à personne, moi j'ai pas de raison d'être condamné, moi. Alors c'est pas des condamnés qu'on est, c'est des sacrifiés, voilà. Eh Marc, c'est de ça qu'il faut qu'on parle dans la chanson, qu'est-ce t'en penses? Que vous avez raison et que j'ai mieux pour le début. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. On a été condamné, on est des sacrifiés. Eh ben voilà, c'est pas beau ça, tu sais ce qu'il nous faudrait après? Il nous faudrait un petit couplet pour aller derrière. Tu sais ce qu'il nous faut après, surtout c'est remonter sur le plateau, puis ça tu vois, moi ça m'amuse pas. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux, on est indispensable, sans nous la guerre ils la perdent. Sans nous, on prend la pile. Ouais, bah tu peux rigoler, mais n'empêche qu'il y en a marre de monter sur le plateau, de se faire grignoter les arpions par les rats, et puis de laisser les copains crever dans la gadoue. On a le cœur bon, comme dans un sanglot, quand on dit adieu aux copains. Pas aux copains, aux sifflots, comme ça t'auras la rime. Tu sais ce que j'en fais, moi, de ta rime. Tout ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on remonte sur le plateau, qu'on baisse la tête, qu'on serre les dents, comme on fait depuis 3 ans. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car on a été condamné, on est les sacrifiés. C'est dans 8 jours, quand on sera reposé, qu'on ira reprendre les tranchées. Car notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, là, faut dire que ça suffit. On en a assez. Personne ne veut plus monter. On a le cœur gros, comme dans un sanglot, quand on dit adieu au sifflot. Ouais, même plus besoin de tambour, et même plus besoin de trompette. On monte sur le plateau, et on baisse la tête. La vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car on a été condamné, on est les sacrifiés. Et Marc, tu sais de quoi il faut qu'on parle maintenant dans la chanson? Il faut qu'on parle du seul vrai moment de bonheur qu'on a dans la tranchée, la relève. D'accord, la relève. Qui c'est qui nous relève? Eh ben, on n'a qu'à dire que c'est des chasseurs. Tiens, t'as vu comment ils nous regardent de haut, nous les biffins? D'accord, un régiment de chasseurs. Dans le silence, il y a la relève qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Ouais, c'est ça. Et comme nous, on a bien tenu tête aux boches, eh ben, c'est sur eux que ça retombe. Les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours. Ah mon vieux Marc, ta chanson elle est chouette, dis donc, tu vas voir la tête du capitaine quand il va l'entendre. Ah non, ah pas de blague, hein. Ah non, c'est notre chanson à nous, et on vérifie toujours qu'il n'y a pas des oreilles d'officiers qui traînent avant de chanter n'importe quoi, n'importe où, hein. Ouais, t'inquiète pas, non mais sûr, hein, moi je veux pas me retrouver en tout, t'inquiète pas. Croix de bois, croix de guerre, si je mange, je vais en enfer. On a dans notre vie tellement de souffrances, qu'il nous reste que l'espérance que demain viendra la relève qu'on attend comme une trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, il y a quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. C'est pas de chance pour eux, y a la pluie qui tombe. Les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours. C'est sa peau, car on a été condamné, on est sacrifiés. sacrifiée. Et ça chante au soleil, au troquet de Craon. Ils sont une dizaine maintenant à reprendre leur frein tous ensemble, à peu près autant que de cadavres de bouteilles qui trônent sur la table. Et Marc joue aussi juste qu'il peut, et franchement c'est pas facile hein, parce que va jouer jusqu'en autour de toi, ça braille, ça brasse, ça remue, c'est beau mon vieux, c'est presque aussi beau que de rentrer à la maison. Il y en a qu'un dans un coin qui chante pas, c'est un petit jeune, un petit bleuet de la classe 17. Lui, il a pris un fil et une aiguille, il se passe le fil entre les dents pour ramasser les miettes, et puis après avec l'aiguille, il s'enfonce sous la peau du bras. Mais ça va pas bien, petit, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me mets des saloperies dans le bras. Comme ça mon bras il va pourrir. Comme ça on me le coupera et comme ça j'y retournerai pas. C'est un gars du 82e qui m'a appris la combine. Mais t'es pas fou petit, tu vas pas faire une chose pareille quand même. Mais si, il a raison, faut pas y retourner, moi non plus, je veux pas y aller. Et Luluascar attrape son fusil et blam, il se tire une balle dans le pied. Un hurlement dans le troquet, on se précipite pour le ramasser, pour l'emporter. Il y en a deux autres qui mettent le fusil sur le sol, la main devant le canon, et qui tirent. Et pendant qu'on les ramasse, pendant qu'on les emmène, le petit jeune, le petit bleuet de la classe 17, coupe les deux bouts de fil qui dépassent de son bras.
Tu travailles sur une épopée contemporaine, un cycle épique en...
7 épisodes.
Ouais.
Ouais.
La vache. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, t'as dit, ok, alors maintenant j'ai un boulot pour 10 ans.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est une série, pas télévisée, mais une.
Ouais.
Une
en fait,
série
l'idée, c'est. En fait, après avoir monté l'épopée de Gilgamesh, qui était vraiment le truc dont je rêvais, et qui m'avait emmené très très loin, justement dans le travail avec d'autres artistes et tout ça, d'autres disciplines, et ben, je me suis trouvé tout bête à ne pas savoir ce que j'avais envie de faire derrière.
Et ça pose cette question-là de récits anciens, Gilgamesh, ça. Quel âge, je sais pas.
On sait pas trop, voilà. C'est plus ancien texte. Plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Voilà. C'est le premier texte de fiction qu'on connaît, quoi. Donc, toujours écrit aujourd'hui. Donc, voilà, c'est très, très ancien. Ouais.
Et donc, ça pose cette question-là, enfin, du contemporain ou de l'universel, du traditionnel et du.
Mais en fait, c'est très exactement cette question qui s'est posée. C'est-à-dire qu'on était en 2003. En 2003, il y avait donc les intermittents partout dans la rue, les festivals annulés, tout ça. Mmh. Et il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, mes épopées, mes contes, mes machins, je suis persuadé depuis des années que c'est très subversif parce que ceci, cela, parce que c'est la parole directe, parce que c'est l'imaginaire, parce que c'est tout ça. Mais est-ce que ça l'est tant que ça? Peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a un moment vraiment où je me suis dit...
Un langage...
Ça me suffit plus, quoi. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Il y a des gens qui font ça très très bien et c'est super, mais moi ça me suffisait plus. J'avais besoin que ça devienne plus explicite et plus proche effectivement dans le temps. Et du coup, en creusant un peu cette question-là, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de raconter? J'aurais envie de raconter des histoires de combattants. Toute forme de combattants, mais en tout cas des histoires de combattants, de gens qui luttent quoi. Et du coup, comme j'arrivais avec ce bagage quand même d'épopée. Comme j'arrivais avec ce bagage aussi de travail avec des musiciens, je me suis dit, je voudrais bien. Et puis en plus à cette époque-là, je lisais une série de bouquins d'heroic fantasy qui me passionnait complètement. C'était l'Assassin Royal. C'est pas de la grande littérature du tout, mais j'étais complètement fou de ce truc-là à l'époque. Et ça me scotchait. Et à chaque fois que j'avais fini un tome, je me disais, mais quand est-ce qu'il sort le suivant? C'est pas possible.
T'as voulu faire ça?
J'ai voulu faire ça.
Qu'on sorte de ton spectacle.
Exactement.
En te disant, quand est-ce qu'il fait le suivant?
Voilà.
Très bien.
Et du coup, ça a tourné un peu. Et puis, à la fois cet apport littéraire de la série, l'apport effectivement de l'épopée traditionnelle ou ancienne, et puis l'apport de la musique et du travail avec les musiciens, donc le travail scénique aussi beaucoup qui était toujours très important, ça a donné ce projet effectivement
Il faut dire une autre chose, c'est que tu voulais être écrivain.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même une composante dans tes récits, en tout cas ce que j'en ai entendu, il y a une écriture.
Ouais.
Une écriture écrite.
Tout à fait.
Importante.
À tel point d'ailleurs que on commence à les sortir en bouquin, là, les textes, les spectacles. Oui, parce qu'effectivement, moi je voulais être écrivain, quand j'étais ado, je voulais être écrivain et je voulais être comédien. Et puis, comédien, c'était pas assez libre parce qu'il y avait un metteur en scène qui disait ce qu'il fallait faire. Et puis, écrivain, c'est trop tout seul dans son bureau. Et voilà, moi, maintenant, je sais que voilà, c'est pas ça qu'il me faut. J'ai besoin d'être sur scène et d'être avec des gens, quoi. Mais quelque part, le boulot de conteur sur un répertoire de création comme ça contemporaine, il est, c'est une espèce de synthèse de ça, quoi. À la fois du côté effectivement scénique et du côté écrivain, mais d'une écriture qui n'existe que parce qu'il y a un projet de scène derrière. C'est-à-dire que j'ai écrit des textes que je n'ai pas joués, j'ai écrit sur commande en fait des pièces de théâtre.
Mais pour des gens.
Mais pour des gens, voilà. En sachant que ça serait monté par telle et telle personne. Je suis incapable d'écrire pour autre chose qu'un projet scénique en fait.
Bon, pour plein de gens, le conte c'est d'abord des récits traditionnels, je sais pas, peut-être que tu aurais appris par ta grand-mère. Ou... et puis pour plein de gens, ça n'a rien à voir avec l'écrit.
Oui, mais pourquoi
là,
pas.
Là, tu parles d'une écriture qui est vraiment faite pour ta parole.
Ouais.
Tu la mesures en fonction aussi de ton souffle, de tes capacités.
Ah bah oui, vocales, et bien sûr. Ouais. Bah, d'autant plus que dans Résistance, c'est entrecoupé de chansons de manière assez régulière, voire de séquences. Dans le premier épisode de Résistance, par exemple, il y a plusieurs séquences qui sont psalmodiées, on pourrait dire, quoi. Où là, effectivement, sur la musique, c'est tonalisé, c'est rythmé, c'est voilà. Donc c'est évidemment composé comme une partition quelque part. Enfin, composé tout de suite dans un objectif scénique. Et pas cette histoire d'oral et d'écrit.
Un conteur, c'est un auteur.
Ben, pour moi, oui, mais après, je prétends pas que ça puisse être le cas pour tout le monde, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, par rapport à cette question-là, ce qui me parle, c'est que pour moi, le conte, avant d'être un répertoire, c'est d'abord une façon de travailler. C'est une façon d'être sur une scène, face à un public.
Bill Frisell dans Beautiful Dreamer.
On bifurque vers une autre question qui est la question de ton métier de conteur. D'abord, c'est un métier.
Ouais.
Tu fais que ça.
Je fais que ça.
Voilà. Et alors, on peut dire que le conte est une discipline artistique à part entière. Tu dis, bon, en dehors du répertoire, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on est en présence d'un conteur ou d'un objet conté. Qu'est-ce que c'est ? Il existe un appareil critique ?
Non, pas trop, justement, non. Il n'existe pas, il faudrait qu'on planche un peu là-dessus pour le faire avancer. Non, je crois qu'on est tous à patauger beaucoup avec cette histoire de définition. On voit bien quand on se retrouve entre conteurs comment on a du mal à définir notre pratique, nous-mêmes, sans parler effectivement de la façon dont elle est définie par d'autres, que ce soit des programmateurs ou d'autres artistes du spectacle aussi qui peuvent utiliser ce mot-là pour des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous, on fait en tant que conteur professionnel. Pour moi, il y a quelque chose effectivement de spécifique. De là à dire que c'est une discipline du spectacle, moi je le pense et je le souhaite, mais de là à dire que ça l'est dans la réalité, je suis pas certain qu'on en soit là, justement parce que...
C'est en train d'être créé.
Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appareil critique qui est pas au point, parce que on n'est pas suffisamment... on n'est pas suffisamment confronté à la critique théorique de cette chose-là pour peut-être pouvoir le définir de façon rigoureuse.
Des journalistes, des gens qui s'intéressent à la...
Ouais, et puis il nous manque entre nous déjà, même avant ça, il nous manque entre nous d'en parler pour entendre ce qui nous est commun et ce qui nous est différent, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose effectivement de spécifique dans la façon de s'adresser aux gens, dans le fait donc de parler en son nom propre, ça, fondamentalement, pour moi, la différence entre un conteur et un comédien, elle est là. Voilà. Et quand je dis je sur le plateau, c'est moi, quoi. C'est personne d'autre que moi. Ouais.
Et c'est pas un personnage.
Mmh. Et du coup, ça pose tout un tas de problèmes d'écriture, parce qu'effectivement, jusqu'à quel point on peut jouer avec la vérité de ce qu'on va dire à la première personne, quoi. Jusqu'à quel point, quand je dis je sur scène, effectivement, c'est moi, mais jusqu'à quel point je déforme la réalité du souvenir personnel, par exemple, que je raconte, pour le faire rentrer dans une forme d'écriture, et jusqu'à quel point je le respecte. Voilà, là, il y a un fil qui est ténu, mais en tout cas, là, pour moi, là, il y a une vraie spécificité du conteur, qui n'est pas, c'est pas comme un comédien, c'est pas comme du one non plus, parce que la
quand
plupart
tu dis
du
one,
temps,
tu veux dire?
Bah, je sais pas, Jamel,
show,
ouais, one man show, Jamel, Gad Elmaleh, Florence Foresti, sont, disent je, et a priori, nous entendons qu'ils parlent d'eux. Jusqu'à quel point c'est vrai? Bah, on n'en sait trop rien quand même, il y a quand même du personnage derrière, évidemment. Et puis surtout, il y a ce recours, il y a cette nécessité du rire dans le One Man Show qui ne correspond pas non plus. Nous, on est plutôt dans des choses qu'on va voir où la nécessité est plutôt poétique.
Et voilà ce qui se passe un jour dans mon rêve. C'est le printemps, il y a un voyageur qui rentre à l'auberge avec un journal à la main et qui dit « Nom de Dieu, ils ont gagné !» Qui c'est qui a gagné quoi? Eh ben les Rouges! Le Front Populaire, quoi, nom de Dieu! Ils ont la majorité à l'Assemblée, je peux te dire que ça va changer! Attends, fais voir ton journal. Bon sang, mais c'est vrai, ils ont gagné. Oh, ça veut dire qu'on va voir débarquer les bolcheviks! Mais non, Ernest, t'inquiète pas! Par contre, si jamais ils tiennent leurs promesses, ce qu'on va voir débarquer, c'est des clients, des gens qui auront du temps, qui pourront venir ici dans mon auberge! Attends, des clients, tu veux dire des jeunes, des ouvriers, des gars de la ville? Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire chez nous? Alors ça, quoi faire, c'est pas mon problème. Par contre, manger, dormir, je peux fournir. Je crois que je vais convoquer une réunion extraordinaire du conseil municipal pour qu'on voit un peu. Eh ben c'est ça, convoque. Allez quoi, le vieux, c'est la vie, faut que ça change. C'est la lutte finale. Toi, tu as pas commencé à mettre du moine dans mon auberge. C'est chez moi ici, alors tu reprends après moi. C'est la lutte finale. Et voilà, les voyageurs qui passent, qui apportent les nouvelles. À Besançon, tout est fermé. À Montbéliard, ils dansent dans les usines jusqu'à des pas d'heure. Et le 8 juin, le journal annonce les congés payés. La toute première fois que le mot « vacances » va exister pour d'autres que les bourgeois et les aristos. Il faut que je fasse des commandes de volailles. Il va passer du monde ici, c'est sûr. Hey, Léon, tu vas aller voir ton patron, puis tu vas lui dire que cette année, il n'y a pas de foin, il n'y a pas de moisson, je veux pas le savoir. J'ai besoin de quelqu'un ici pour m'aider pour les chambres. J'ai comme dans l'idée que ça va pas être des vacances pour tout le monde.
Toujours chez François Godard, interviewé par Anne-Gaëlle Godichaud, à propos maintenant de son grand chantier Résistance, qui est le titre général de son travail, qui parle de toutes les formes de résistance. Celle de tous ces gens qui, à un moment donné de l'histoire, ont lutté.
Au départ, dans le projet de Résistance, il y avait l'idée que chacun des épisodes de Résistance serait appuyé sur une figure mythologique. C'est-à-dire que le tout premier épisode de Résistance, pour des gens qui auraient l'oreille un peu affûtée, ils pourraient y lire intégralement l'histoire d'Orphée. Voilà, alors que ça se passe dans les tranchées en 1917. Donc il y a déjà cet apport-là, qui est donc un apport de fiction, mais dont je suis pas l'auteur. Il y a une espèce de cadre du récit, voilà, de cadre de récit dans laquelle je place mes personnages. Il y a des personnages de fiction, complètement, qui sont inventés, qui sont placés dans une situation historique qui, elle, par contre, évidemment, est une situation historique, donc très documentée, très tout ce qu'on veut. Mais les personnages eux-mêmes n'ont pas existé. Et puis il y a toujours moi, justement, je à la première personne, où je vais raconter effectivement des souvenirs d'enfance, présenter des personnages que j'ai connus dans la réalité, et qui servent les souvenirs ou les personnages de déclencheurs à l'histoire imaginaire. C'est-à-dire que c'est parce que je suis ramené par tel bruit, par exemple dans l'épisode 2 de Résistance, c'est ça. C'est qu'on a des cadres en ferraille, on tape dessus. Et ce bruit de la ferraille me ramène un souvenir d'enfance d'un lit en ferraille dans lequel je dormais, chez ma grand-mère. Et du coup, de ce chez ma grand-mère, je passe à l'histoire de mon grand-père, effectivement, de la génération d'avant, c'est-à-dire comment on fait pour se construire quand on n'a pas de père, parce qu'il est mort en 17 à la guerre, quoi. Voilà, c'est ça l'espèce de cheminement. Et puis, alors, dans certains épisodes, j'y reviens pas. C'est-à-dire que c'est juste le déclencheur. D'accord. Dans d'autres épisodes, c'est complètement entremêlé. Sans arrêt, je fais le va-et-vient entre... Voilà. Et dans les épisodes, dans les deux derniers, le cinquième et le sixième actuellement, parce que le septième n'existe pas encore, il y a encore un plan de récit supplémentaire, où là, je me place moi en tant que personnage en train de parler à quelqu'un, comme si j'étais en train de collecter la parole de quelqu'un pour créer le spectacle, mais que non seulement j'avais collecté sa parole pour nourrir la fiction, mais que même en direct sur scène, j'étais en train de parler avec cette personne-là. Quoi. Mmh. Voilà.
Dans la réalité, tu as travaillé comme ça, quand tu parles de documentation, tu parles, j'imagine, de livres, mais aussi de collectage,
ouais.
De témoignages.
Bah oui, alors pour les alors dans Résistance, on avance dans le temps d'épisode en épisode. Le premier en 1917, donc là, il n'y a plus grand monde de vivants. Mais par contre, tous leurs témoignages ont été beaucoup, beaucoup collectés. Donc voilà, il y a beaucoup de documentation qui existe et je passe toujours évidemment beaucoup de temps là-dedans. Et puis, tout type, quoi, que ce soit justement les lettres des poilus, mais le cinéma, la chanson, les choses d'époque et les relectures a posteriori de voilà, d'autres travaux d'artistes sur la même période que celle qui m'intéresse. Voilà, et puis il y en a énormément, évidemment. Et puis à partir effectivement de la guerre d'Espagne, il y a encore quelques personnes vivantes, mais c'est très compliqué de rentrer en contact avec elles. Donc je les ai plutôt rencontrées après coup, en fait.
Ah oui. Parce qu'elles venaient
voir le spectacle.
Et
là, du coup. Voilà, là on parle après, et puis c'est
super.
Des moments très forts. Et puis même chose sur l'épisode 4 qui est sur les maquis 43-44. Bah c'est pareil, il y a encore des gens vivants. Donc voilà, on s'est trouvé à se rencontrer comme ça. Mais par contre, effectivement, le cinquième épisode sur la guerre d'Algérie et le sixième sur les communautés, les années 70-80, bah là, les gens, ils sont tout à fait vivants. Mmh. Et là, j'ai passé effectivement beaucoup de temps à collecter. Quoi. Mmh. Et c'est un boulot absolument passionnant. Enfin, moi, j'adore faire ça. C'est vraiment...
Mais du coup, ça veut dire que le travail continue quand tu joues. Forcément, ce spectacle-là attire des gens qui ont quelque chose à voir avec ça. Et qui eux-mêmes enrichissent ton...
Oui, oui, complètement. Ouais, complètement. C'est-à-dire que, bah, typiquement, l'exemple, effectivement, c'est... on va jouer... on a joué les quatre premiers épisodes il y a quelques années sur le plateau de Millevaches, dans le Limousin, qui est quand même une terre de résistance un peu marquée. et puis le troisième épisode, donc sur les brigades internationales et la guerre d'Espagne, bah, voilà, les gens qui nous reçoivent nous disent « Mais on va te faire rencontrer José ». Et puis, bah, effectivement, je fais la rencontre de José le soir après, enfin, juste avant le spectacle, on s'aperçoit deux minutes, et puis le soir après le spectacle. Quoi. On pleure beaucoup tous les deux, voilà, c'est des moments très très forts, évidemment. Je vais chez lui le lendemain, il me raconte voilà, sa guerre à lui et tout ça. Et c'est bah, évidemment quand après ça, quand je raconte la même histoire, j'ai pas changé le contenu de l'histoire. Si! Après, c'est pas vrai d'ailleurs. Il y a un truc, il y a une phrase qui a changé dans le spectacle
après cette
représentation.
Cette rencontre,
ouais.
Voilà.
Parce que une phrase sur le sens de la lutte entre les différentes factions, les différents côtés des républicains. Voilà, entre les communistes, les staliniens, les anarchistes. Tout ça. Il y a un truc qui a changé. Donc c'est pas voilà. Mais même sans ça, c'est surtout que je peux pas faire autrement quand je raconte cette histoire-là maintenant que d'avoir sa tête, son visage. En plus, il est mort là depuis un an maintenant. J'ai son visage dans les yeux. Voilà, il y a un personnage qui a sa gueule, évidemment. Quoi. Et avec là, sur la guerre d'Algérie, c'est encore plus fort, parce qu'évidemment, pratiquement à chaque représentation, devant nous, on a des gens qui y étaient. Quoi. Donc, voilà, qui osent le dire ou pas, mais il y a des gens qui y étaient. Bon, voilà, c'est des choses très... c'est des contacts très très forts. Et justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le répertoire lointain, le répertoire proche, quand je racontais de la mythologie irlandaise, j'étais dans l'idée quelque part d'aller emmener les gens, de les faire rêver quelque part. C'est un espèce de truc exotique, avec tout ce qu'on peut mettre de bien et de pas bien là-dedans, mais là non, là on n'est pas dans l'exotisme du tout, c'est-à-dire que c'est au contraire, c'est raconter aux gens leur propre histoire, c'est être donc très très près du ressenti des gens, quoi.
Ce qui fait à ton avis tu parles d'histoire à la manière d'un artiste, et c'est quoi la différence, tu dirais?
On arrive effectivement avec quelque chose qui est intégralement de l'ordre du senti, et pas du savoir.
Oui,
c'est-à-dire que le savoir m'a permis d'écrire quelque chose. Évidemment, s'il n'y avait pas les historiens qui avaient fait le boulot...
T'apportes...
Mais moi, j'apporte de l'humain là-dedans. J'apporte pas du cours, quoi. J'apporte pas du savoir. Et c'est là où je pense qu'on est dans un truc complémentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, moi, j'ai besoin des historiens pour pouvoir faire mon boulot. Mais malgré tout, c'est vraiment un truc que j'ai compris en travaillant sur la guerre d'Algérie. C'est que nos représentations collectives des événements historiques, elles sont très peu fabriquées par les historiens. Elles sont beaucoup plus fabriquées par la fiction, par le cinéma, essentiellement, Les images qu'on a, nous, aujourd'hui, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des images de cinéma.
C'est ça.
Ben oui. Et par la littérature, par la télé, éventuellement. C'est-à-dire par du travail de fiction. Et dans ce sens-là, je crois vraiment que notre boulot à nous, artistes, il est totalement indispensable pour donner ce bagage collectif, ce bagage effectivement sur la mémoire collective qui permet aux gens de d'avoir un passé commun, enfin d'avoir un voilà.
La fiction, ça pourrait servir à ça, à fabriquer un imaginaire qui nous soit commun.
Moi, je crois que ça sert beaucoup à ça. Ouais, je crois que ça sert beaucoup à ça. Ça sert sûrement pas qu'à ça, mais ça sert beaucoup à ça. Et ça sert déjà en premier point de toute façon à nous donner un moment de vie commune.
Oui, déjà, tu te rencontres.
Là. Bah oui, parce que t'es dans une salle avec des gens que tu connais pas, et puis tu partages un truc qui est le même. Évidemment, quand on va sortir, on sait très bien, nous les conteurs, on sait ça, que si le lendemain tu réinterroges les 50 personnes qui étaient dans la salle, t'auras 50 histoires différentes. Mais n'empêche qu'il y a eu un moment où les 50, ils étaient en même temps, au même endroit, à entendre la même chose. Et donc déjà, ça, c'est quand même pas rien, quoi. Et puis après, je crois effectivement qu'il y a... en tout cas, quand on travaille sur de la mémoire, que ce soit de la mémoire justement d'événements historiques récents comme dans Résistance ou de la mémoire avec les contes traditionnels et les gens de l'imiter tout ça, c'est pareil, on est sur la transmission d'une culture.
J'aime l'empreinte du vent laissée dans mes cheveux. J'aime quand le soleil vient à forcer mes yeux à détourner le regard et réchauffer une bonne part. Et quand l'air de rien, l'air du matin, pour un pas de trop, on a les pieds dans l'eau. Et c'est là qu'on voudrait bien devenir un beau marin pour oublier qu'on n'est pas des ducs à chalots. Non, c'est pas mon la mer est dans mon dos et que d'une vague elle me sale aussitôt. En me cuisant l'épiderme, elle me rappelle à la terre ferme sur laquelle mes chevilles ont plié sous le poids de la nécessité. Et c'est là qu'on voudrait bien avoir un pied marin pour oublier qu'on n'est pas des ducs à chalots. Non, c'est pas mon lot. On se sent bien, on se sent bien. Un peu terrien sans oublier qu'on n'est pas des rouges et barbés. À la crier, oh, la crier c'est pas ma tasse de thé. Oh non, la crier c'est pas ma tasse de thé. Oh la crier c'est pas ma tasse. C'est pas ma tasse. C'est pas ma tasse.
Marie Combo chantait « Terrien d'eau douce ».
Il y a 10 ans, quand tu as envisagé de ce grand travail qui s'appelle « Résistance », d'abord, ce n'est pas n'importe quel nom.
Bah non.
Quand même. Ce n'est pas n'importe quel titre que tu as donné. Il y a un projet artistique, évidemment. Il y a un projet politique aussi, c'est
bah
sûr.
Oui, évidemment. Ouais.
Et tu avais envisagé déjà quelles étaient les périodes de l'histoire
Ouais, en fait, j'ai conçu vraiment l'ensemble du cycle dès le départ. Je savais qu'il y aurait 7 épisodes et je savais qu'il serait avec tel personnage et dans tel moment historique et avec telle forme de résistance. Parce que ça, ça racontait une forme de résistance différente à chaque fois. Et donc oui, j'ai conçu ça d'abord, quoi. Avant d'écrire le premier épisode, j'ai conçu les 7, quoi.
Et il y avait un projet.
Il y a un projet politique qui était ce que je disais tout à l'heure, le fait d'expliciter des combats. Parce que je crois que. On n'en parle pas assez de cette mémoire-là. C'est-à-dire que, justement, par exemple, la guerre civile espagnole, c'est une chose aujourd'hui dont personne ne parle, quoi. Alors que, bon sang, des gens qui viennent du monde entier se battent dans un pays qui n'est pas leur, pas pour de l'argent, pas pour un dieu, juste pour une idée, quoi. C'est un truc unique dans l'histoire. Et ce qui est très, d'ailleurs, ça me fait rire depuis le début que je suis là-dedans, parce que je me suis rendu compte de ça. Les seules autres comparaisons qu'on pourrait trouver avec ça, très paradoxales, ce serait les Moudjahidines en Afghanistan contre les Russes. Et actuellement en Irak, des gens effectivement qui viennent, ou en Syrie, des gens qui viennent se battre dans un pays qui n'est pas leur, pas pour de l'argent. Bon, il y a un peu de Dieu derrière qui est un petit peu. Bon, voilà. Pour certains, sûrement pas pour tous non plus, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que tout est toujours très relatif aussi.
Donc, les périodes, tu as commencé par 1917. Alors,
premier épisode, ouais, les mutins, 1917. Deuxième épisode, c'est le Front populaire, l'été 36, avec. Évidemment, le Front populaire comme cadre, mais au-delà de ça, surtout ce dont il est question, c'est justement la guerre est finie depuis une vingtaine d'années, et comment on fait avec ça, quoi ? Comment on fait pour être jeune et pour vivre 20 ans après ça, avec la mémoire des pères qui ne sont pas rentrés, voilà. De là, on part. Alors, c'est une histoire qui suit, hein, c'est des épisodes, c'est-à-dire que les personnages se retrouvent d'un épisode à l'autre. Donc, il y a un personnage qui déboule dans le deuxième épisode, qu'on va retrouver dans le troisième épisode en Espagne. Engagé dans les brigades internationales. Et puis, il va revenir d'Espagne avec tout... Ben voilà, lui, il va survivre. Donc, il va revenir, il va arriver en France avec tous les réfugiés. Et avec lui, il emmène l'héroïne du quatrième épisode, qui est donc une combattante espagnole anarchiste. Et là, le quatrième épisode, on va être dans les maquis 43-44.
D'accord.
Mais dans lesquels il va être plus question d'enfance, en fait, que de combat, presque. C'est-à-dire que c'est... moi, ce qui m'a frappé en lisant les témoignages des résistants, et parce que je trouvais ça aussi très peu parcouru justement par la fiction jusqu'ici, c'est que c'était d'abord des gens très très jeunes, donc qui avaient envie d'amour, qui avaient envie de poésie, qui avaient envie de se marrer, qui avaient envie de chanter des chansons, qui avaient envie de faire l'amour, qui avaient envie de voilà, et que ça on n'en parle pas beaucoup finalement, parce que nous forcément c'est des vieux.
Évidemment pour nous c'est des vieux.
Bah oui. Mais ils ont d'abord été jeunes, quoi. Et du coup, il est beaucoup question de ça. C'est des gens aussi qui avaient des enfants en bas âge dans les pattes, quoi. Mm-hmm. Et comment on fait quand on a une mission à remplir et qu'on a un gamin? Enfin, c'est, voilà. C'est une question qui est pas anodine par rapport à la question auquel tourne finalement beaucoup Résistance, qui est de comment le quotidien et la lutte s'imbriquent, quoi. À quel moment on bascule d'un côté à un autre?
Ça, c'est le cinquième.
Quatrième épisode. Voilà. Le cinquième, on est donc avec Joseph, on est dans la guerre d'Algérie. Voilà. Et puis le sixième, on est donc dans les utopies communautaires des années 70 et 80. Et puis le septième, qui est donc pas encore écrit, on sera... parce que je me suis dit, avec quoi je vais terminer maintenant? Et donc, a priori, on va terminer ce que j'avais forcément envie de mettre le plus en valeur quelque part. C'est un peu incontournable, c'est de dire comment on peut parler du spectacle comme forme de résistance. Voilà, donc l'héroïne du dernier épisode est comédienne et comment ça se... Voilà, donc, je ne le sais pas encore, parce que c'est pas écrit.
Il porte d'ailleurs tous ces noms-là, tous ces spectacles-là. Il y a une date et un nom.
Ouais,
c'est Rosa, c'est Joseph, c'est Tristan, c'est une personne.
Oui, parce qu'à chaque fois...
C'est pas un héros.
C'est le héros de l'histoire, ouais. Mais c'est pas un héros au sens où l'entendrait historique. C'est-à-dire que c'est des gens... Comment dire, si ce sont des héros, mais comme tous les héros de la réalité, je crois, c'est-à-dire que ce sont des héros pendant 5 minutes de leur vie. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est tout le reste autour.
Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu réagis comme ça, peut-être, et puis
comment tu t'en sors après? Comment tu vis après avec ça? Comment t'es avant et comment t'es après?
À côté de la porte de la grange, il y a une valise de cuir, toujours prête à être emportée ailleurs en cas d'orage nazi. Dans cette valise, il y a des merveilles. Bodas de sangre, noces de sang. García Lorca. Inès l'avait rencontrée alors qu'elle apprenait à lire avec le syndicat anarchiste et que lui, il organisait des tournées de théâtre populaire dans leur Andalousie commune. Soledades, Antonio Machado. celui qui aurait tout aussi bien pu faire partie du convoi escorté par Inès et Tristan de Barcelone à la frontière française. Celui qui a fait son chemin jusqu'à Collioure, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce qu'il n'y a que des traces. Il y a aussi la toute première édition d'un petit livre incroyable, juste sorti sous le manteau, avec un M et une étoile sur la couverture. Le silence de la mer. Terre des hommes, un aristocrate facétieux et mélancolique, pilote de l'aéropostale pour aller réenchanter le ciel en lui portant des lettres d'amour. Et puis Éluard, bien sûr, quelques exemplaires du Liberté parachuté en 42. Et aussi plusieurs tomes de lumière brute échappés du Vaucluse, un géant tonitruant et envoûté, nommé René Char. La guerre tient les frontières de la nuit. Le jeu consiste à repousser les frontières le plus loin possible. Et à ce jeu-là, Joseph Desroses est très fort, du haut de ses 2 ans et demi. Il arrive chaque soir à gratter une histoire, à voler un petit moment de rêve à ses grands enfants qui n'en ont pas le temps. Chaque soir, une paire différente de genoux. Chaque soir, une odeur différente de sueur et de tabac. Chaque soir, une mémoire différente et des rêves en commun. Et chaque soir, Joseph s'endort en souriant, si loin de ces trains remplis d'enfants qui déchirent la nuit. La radio est là pour ça, elle aussi. Chaque soir, les Français parlent au français. Radio Londres rapporte au cœur du Gers les nouvelles d'un monde déjà sans frontières, un monde de tumulte, où les victoires sont encore pleines de sang et de larmes, et où les jeux de mots sont incompréhensibles, dans la voix de Pierre Dac. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Quand enfin la radio se tait, quand enfin Joseph s'endort, quand enfin chacun prend son quart et s'en va rêver dans son coin, Inès et Léon s'enfuient comme des voleurs. Ils courent à travers les ronces pour aller voler leur jeunesse à ce monde moribond. Et en toute saison, sous tous les quartiers de lune, ils trouvent de l'herbe crissante et des buissons ardents. Et l'amour vient les prendre. L'amour enflamme leurs vêtements rugueux jusqu'à ce qu'ils les arrachent. L'amour fait une torche des cheveux d'Inès, qu'elle dénoue dans son dos, que Léon tisonne de ses doigts vigoureux. En toute saison, sous tous les quartiers de lune, ils ont 20 ans. Ils ont la peau gorgée de sève et la chair palpitante. Et elle sent bon la peau d'Inès au creux du cou. Elle sent fort la peau de Léon sur le torse et les bras. Alors ils se prennent sous toutes les coutures qui craquent de leur corps de 20 ans. Ils boivent jusqu'à s'enivrer à la source de la poésie. Ils soufflent, ils inspirent, jusqu'à ne plus savoir lequel souffle et lequel inspire. La sueur et la salive et toutes les eaux du corps amoureux débordent, les emportent jusque sur les mers australes. Elles enduisent leur peau de lune et d'opale. Et le monde se renverse avec eux quand ils écrasent l'herbe sous leur dos griffé. Le monde chavire avec eux quand ils sont attentifs avant de dévorer, frissonnant. Le monde s'engouffre dans leur chair ouverte, dans la morsure de s'engloutir pour renaître. La lune va changer de corps, elle va passer de l'un à l'autre, elle va changer, changer encore, obsédée par l'absence et l'absolue présence. Et le monde se renverse avec eux. Le monde repousse avec eux les dieux vivants ou morts. Et la révolution planétaire pour mieux être homme et femme, peau et peau. Plus de rossignols, plus de roses odorantes, plus de balcons, plus de monde, plus de mots, plus rien que dans la nuit, le brasier du jour qui tangue.
Nous sommes toujours à Poitiers en présence de deux conteurs qui, dans une maison pas très grande, mais bien douillette et chaleureuse, parlent de quoi ? Ils parlent de leur boulot, et en particulier du cycle Résistance, le travail de François Godard, en cette partie, sept spectacles.
À propos de militants, j'ai entendu cette émission qui s'appelle « Jusqu'à la lune et aller-retour » de Aline Payet sur France Culture, où elle t'interrogeait sur cet épisode de résistance qu'elle avait vu et qu'elle avait adoré. Et tu lui racontais cette chose de ton grand-père.
Mon grand-père, à la fin de sa vie, un jour, nous emmène voir les lieux un peu importants de sa vie. Et puis, voilà, 80 ans, bon, encore à peu près toute sa tête, mais limite. Et pour la première fois, et la dernière d'ailleurs, j'ai vu pleurer mon grand-père, parce qu'il nous dit, voilà, moi j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais soldat, enfin je faisais mon service quoi, dans l'armée française, et on était en 38, j'étais sur la frontière espagnole, et j'ai vu arriver les républicains. Et on m'avait appris, fuyant, voilà, donc des gens dans un état, voilà, les réfugiés qu'on voit à la télé, c'est les mêmes, quoi, c'est pareil. Et il dit, voilà, moi j'avais été éduqué dans l'idée de la République, voilà. Et puis là, je suis soldat, j'ai un fusil dans les mains, et j'ai un capitaine à côté de moi. Voilà. Et on m'a donné l'ordre en joue.
Ça veut dire de mettre ces
de mettre, gens-là. Voilà, d'être prêt à tirer sur ces gens qui arrivaient. Des femmes, des enfants, des vieux, pratiquement plus de combattants, mais quelques-uns armés. Et on était complètement paniqués, parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ces gens qui arrivaient, quoi. Et là, ce qui était très très fort dans le récit de mon grand-père, c'est de dire effectivement, mais si on m'avait donné l'ordre de tirer, j'aurais tiré. Et donc 60 ans après, 70 ans après, c'était un truc qui terrifiait encore, quoi, de dire... J'ai été mis dans une situation dans laquelle, si on m'avait donné l'ordre de tirer sur des gamins, je l'aurais fait.
Oui, t'es pas un salaud.
Non.
T'es pas.
Mais par contre, les circonstances dans lesquelles on te place, voilà. Et ça, c'est extrêmement frappant, évidemment. Moi, j'entends ça raconté par mon grand-père, donc ça apparaît tel que dans le spectacle. Du coup.
C'était avant que tu ne commences ta série.
Ouais, c'était avant. Ouais. Mais ça, c'est quand je me suis posé la question comment aborder la guerre d'Espagne. Eh ben, j'ai pensé à ça. Voilà, je me suis dit, mon grand-père, il était à cette place-là, effectivement, du soldat français sur la frontière, quoi.
Voilà. Voilà. Un système de sécurité, quoi, où tout le monde travaille pour tout le monde. C'est pas si difficile, quand même. Joseph, remets ton bonnet, Joseph, tu vas t'enrhumer. Hé, hey, Inès, tu rêves, là ? Eh, si, je rêve. Et alors ? T'as vu ce qui se passe si on arrête de rêver ? T'as vu ce qui se passe si on leur laisse le choix des armes ? Si c'est eux qui disent de quoi on a le droit de rêver et de quoi on n'a pas le droit de rêver ? Ah oui, je rêve. Et je regarde Joseph qui joue et je rêve encore plus fort. Ouais, les gars, il faut que je trouve un moyen de faire remonter tout ça dans les réunions de la résistance. Elle a raison, Inès. Il faut qu'on rêve. Mais en plus, il faut qu'on le dise. Sinon, à quoi ça sert ? C'est vrai, ça ? À quoi ça sert ? Si ça reste entre nous ? Je monte sur scène ? Tu vas au théâtre ? Il, elle, au singulier, joue de la musique ? Nous parlons politique ? Vous écoutez ? Il, elle, au pluriel, s'en foutent. À quoi ça sert si ça sort pas d'ici ? À quoi ça sert la photo de De Gaulle dans le bureau de mon pépé alors qu'on n'y mettait jamais les pieds ? Mon pépé, c'était comme mes cousins, c'était pas un révolutionnaire, hein. Et pourtant, il avait bien dû faire quelque chose dans cette histoire de guerre et de résistance pour que le grand Charles le gratifie d'un petit mot personnel sur son affiche. Mais quoi ? Dans quel carton d'archives il faut que je cherche ? Et pour trouver quoi ? C'est de la mémoire ? Ou c'est du combat ?
François Godard, Résistance.
14 janvier 1944.
Réunion du conseil départemental de libération de la Haute-Garonne, à Toulouse, dans une petite rue près du canal. Ils sont une douzaine, réunis autour de Ravanel, tout jeune colonel des toutes jeunes forces françaises de l'intérieur, les FFI. Ils viennent représenter tous les groupes armés qui opèrent autour de Toulouse. Ils ne se connaissent pas entre eux. Ils ne connaîtront jamais que les surnoms des uns et des autres. Pour Spartacus, Ronce et Marianne sont là. Chaque groupe a aussi envoyé un homme pour protéger la réunion. Pour Spartacus, l'homme en question est une femme. Une jeune femme brune, au teint mat, qui passe dans les rues du quartier en poussant un landau. Il n'y a pas de bébé sous les couvertures. Il y a deux pistolets et un fusil de précision. Le conseil départemental de libération a loué pour elle une chambre au deuxième étage, en face de la maison où se tient la réunion. C'est un hôtel borgne. Il y a trois résistants qui jouent les clients fatigués au bar du rez-de-chaussée. Et en face, la réunion se tient dans un atelier de peintre. Alors, à l'entrée, on classe des pots de peinture et de solvant sur des étagères. Ravanel dirige les débats. On a une décision importante à prendre, qui est négociée à peu près en même temps à tous les échelons de la résistance intérieure. Est-ce qu'il vaut mieux créer de gros maquis avec des milliers d'hommes, plus faciles à organiser, plus faciles à ravitailler et à armer, mais aussi beaucoup plus faciles à immobiliser ou à attaquer pour les Allemands et la milice? Ou alors mailler le territoire avec des petites unités très mobiles qui mèneraient une guérilla permanente, mais qui sont pratiquement impossibles à armer et à organiser correctement? La discussion est ferme, dans un calme invraisemblable. Personne n'a intérêt à ce que la réunion s'éternise. Le respect est total entre des frères d'armes qui se seraient pourtant écharpés avant-guerre. Certains veulent rester de toute façon complètement autonomes. D'autres aimeraient bien créer des gros maquis pour montrer aux alliés que la résistance intérieure, c'est pas qu'une équipe de petits bras cassés minables. Ronce argumente plutôt pour les petites unités. Il raconte comment ça se passe chez eux à Spartacus. On discute. Marianne prend des notes, mentalement. Elle a une machine à écrire à la place du cerveau. Elle est déjà en train de taper le compte-rendu de la réunion, sans faire un geste et sans en perdre une virgule. Finalement, au vote majoritaire, c'est la stratégie de la guérilla qui l'emporte. Et Ravanel promet qu'il veillera à ce qu'elle soit appliquée. On procède ensuite au renouvellement des postes laissés vacants par les arrestations. Pour certains, ça fait 3 ans déjà qu'on assiste à ce genre de réunion, alors l'efficacité prime. On ne passe pas des heures à comparer les pédigrés des candidats. Et puis enfin, on peut échanger un peu plus librement sur les besoins de chacun, qui sont globalement les mêmes pour tous. On manque d'armes, on manque d'instructeurs. Ça vient, De Gaulle l'a promis, le soulèvement approche. En attendant, il faut faire avec ce qu'on a. 2 heures déjà qu'on discute. Les hommes à l'entrée commencent à être nerveux. Inès tourne pour la 3e fois le coin de la rue, toujours en poussant son landau et en chantant ses berceuses mornes de jeune maman fatiguée. Et Tristan entre dans la rue. Et il n'a rien à faire là. Sans courir, il rattrape Inès. Il marche à côté d'elle, il glisse la main dans le landau sous les couvertures. La police est en train de boucler le quartier. On a été donné. C'est quoi le mot de passe? Il ressort la main des couvertures, il la met dans sa poche. Il s'écarte. Allez ma belle, comme à Gandessa. Tu les ralentis pendant que je fais sauter les ponts.
L'émission C'est pas pour dire se termine pour aujourd'hui, mais nous n'avons pas fini en fait notre enquête auprès de François Godard. Suite de la discussion dans la prochaine émission. Mmh.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.